premier étage. Je te mets en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionce dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Envolée du vendredi 23 janvier 2026. L'Envolée, une émission contre toutes les prisons qui donne la parole aux premières concernées, les prisonniers, les prisonnières, leurs proches et en particulier ceux et celles qui luttent et qui dénoncent leurs conditions de détention. Je vais tout de suite vous rappeler nos contacts. Pour nous contacter, pour nous écrire par la poste, c'est l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez nous appeler au 07 53 10 31 95. Vous pouvez nous laisser des messages sur le répondeur, des textos et nous écrire sur Signal. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet l'envolée.net et vous pouvez nous envoyer des mails à contact@l'envolée.net. C'est l'envolée tout attaché, sans accent, avec deux E à la fin. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et avec un peu de chance sur Facebook et sur X. Voilà, donc vous nous écoutez sur FPP 106.3 FM en région parisienne le vendredi soir et sur une quinzaine d'autres radios associatives qui nous rediffusent plus tard. On les salue au passage. L'émission d'aujourd'hui, c'est une émission d'archives. On vous a fait un petit collage et melting pot de vieilles archives, tout un peu sur le même thème. On avait envie de vous les partager et de donner matière à réfléchir et discuter. Donc on va parler en particulier de lutte de prisonniers, de proches, contre l'allongement des peines et contre les régimes d'isolement. Voilà.
Dans cette émission d'archives, on voulait revenir sur deux campagnes qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années. Contre les nouveaux régimes d'isolement que l'administration pénitentiaire met progressivement en place pour mater les prisonniers et les prisonnières longue peine. D'abord sur une campagne qui avait été menée en 2008-2009, donc contre l'isolement et les longues peines, et ensuite une campagne menée en 2013 au moment où s'ouvraient les prisons ultra-sécuritaires de Condé-sur-Sarthe et de Vendin-le-Vieil, contre les QHS modernes. Et ça nous semble important d'en reparler aujourd'hui parce que cette année, Darmanin a commencé à ouvrir les nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée qui sont le nouvel avatar de ces quartiers ultra sécurisés pour mettre les prisonniers et prisonnières considérés comme dangereux et dangereuses et que l'administration pénitentiaire n'arrive pas à gérer autrement. Et pour nous, du coup, ça semble important et intéressant de réécouter ce qui s'est fait à ces époques-là aujourd'hui, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait un mouvement aussi qui se monte à l'extérieur et à l'intérieur contre ces nouveaux QHS, là, contre les QLCO qui sont en train d'ouvrir, qui ont déjà ouvert à Vendin-le-Vieil, Condé-sur-Sarthe, et qui vont ouvrir, enfin, il y en a d'autres encore qui sont annoncés pour 2026, et voilà ce qui nous semble intéressant dans les extraits là qu'on va passer, dans les bouts de discussion qu'on va mettre à l'antenne, c'est que ça parle des modalités d'action, que ça parle aussi de comment mener cette lutte aux côtés des personnes enfermées, et que voilà, peut-être ça peut donner des billes pour les personnes qui aujourd'hui voudraient de nouveau se mobiliser contre ces régimes d'isolement et la torture blanche. de qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui pour lutter contre les QLCO et plus largement contre les différents régimes d'isolement. Donc on va d'abord revenir donc sur la campagne de 2008-2009 qui avait été notamment initiée par l'ARPI. Donc l'ARPI, c'est l'association pour le respect des proches de personnes incarcérées. C'est donc une association de proches qui a notamment été lancée par Catherine, donc une personne qui avait elle-même fait plusieurs passages en taule et dont à l'époque les deux fils, Christophe et Cyril, étaient incarcérés. Donc Christophe Kider qui purgeait déjà une peine de plusieurs dizaines d'années alourdie par trois tentatives d'évasion et Cyril, son frangin qui avait pris 10 ans pour avoir aidé de bah, aider son frère à tenter de s'arracher de Fresnes en 2001. Donc Christophe Kider, qu'on connaît bien à cette antenne, parce que donc voilà, à l'époque, il avait déjà pris une peine de 30 ans aux assises, puis une nouvelle peine de 15 ans pour sa tentative d'évasion de Fresnes, donc avec l'aide de son frangin Cyril. Et un an après, il va réussir à s'arracher avec son pote Omar donc de la centrale de Moulins-Isère. Et ils vont malheureusement être rattrapés après 48 heures de cavale. Et il va, suite à ça, reprendre une peine de 15 ans, et Omar également, pour cette évasion. Et ses complices vont, eux, prendre, les trois complices qui vont être condamnés vont prendre chacune 5 ans de prison. Et donc, au moment où Catherine lance cette association de proches de prisonniers, elle se bat aussi, donc voilà, pour ses deux fils qui se retrouvent à faire des peines à deux chiffres et qui se retrouvent dans ces nouveaux quartiers d'isolement, quartiers maison centrale, qui sont mis en place pour mater ces prisonniers longue peine. On va donc d'abord écouter l'extrait de la première assemblée générale de l'ARPI où Catherine va présenter l'association, ses principes, son fonctionnement. Et on peut juste rappeler que l'ARPI, ça s'inscrit dans une histoire, l'histoire des collectifs de proches de prisonniers qui se battent justement pour sortir de leur lutte individuelle face à l'administration. Et aussi pour défendre à la fois le droit des proches qui subissent les humiliations et qui se font aussi enfermer avec leurs proches, mais aussi pour défendre les droits des prisonniers et des prisonnières. Et donc voilà, on va d'abord écouter Catherine présenter l'ARPI.
Je m'appelle Claude-Charles Catherine, enfin tout le monde m'appelle Catherine. Je suis venue présenter l'association ARPI, Association pour le respect des proches de personnes incarcérées. Pourquoi j'ai choisi ce combat. J'ai eu le temps de constater ce qui se passe devant les prisons, à l'intérieur des prisons, comment sont traitées les familles, punies, bafouées, piétinées, humiliées. Il se passe des choses tellement horribles que la personne qui n'y a jamais été confrontée, elle ne peut pas le comprendre, elle ne peut pas l'entendre. Qu'est-ce qui ferait la différence, cette nouvelle association, une de plus, ça fera la sixième, je crois, depuis les années 70, c'est la parole des personnes concernées. Ça ne sera plus les personnes, les théoriciens, le monde associatif qui va récupérer la parole ou politiquement, etc. C'est par exemple une personne qui se trouve demain confrontée, qui ne connaît pas la prison, son proche est incarcéré. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller demander, elle va appeler des associations, elle va tomber sur un numéro vert, mais c'est tellement froid et impersonnel. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à mettre, nous, en place, un numéro où la prison, elle doit se rendre. Il y a une personne qui va déjà au parloir et qui la prenne en charge. Prendre en charge, en plus, c'est pas compliqué, c'est juste, on s'accompagne, je te montre les premières fois comment ça se passe, etc., etc. Donc, moi, je vais vous lire, j'ai écrit une petite charte très vite fait. Alors, 1. Je refuse définitivement que l'on me traite comme du bétail lorsque je me rends au parloir d'une prison et d'être considéré comme un rebut de la société simplement parce que j'aime ou soutiens un disqualifié social. 2. Je refuse que ma dignité soit bafouée, d'être jugée, humilier et l'accepter comme une fatalité insurmontable parce que je suis proche d'une personne détenue. 3. Je refuse que l'on mesure ma valeur et que l'on m'exclue du système en fonction du délit ou du crime dont est accusé mon proche et m'engage à mon tour à ne pas juger les autres sur ces critères. 4. Je refuse catégoriquement et en toute objectivité de nier la réalité des choses, de fermer les yeux ou de m'en faire complice à chaque fois que cela s'impose face à une situation jugée inacceptable, de la dénoncer sans céder au chantage carcéral pouvant s'exercer sur les transferts, les remises de peine, les permissions de sortie, la libération conditionnelle ou l'UVF par exemple. Enfin, 5. J'accepte avec cette charte de mettre en œuvre les ressources de l'amitié, de la fraternité, de l'amour et de la responsabilité partagée pour réfléchir, concevoir, oser et tisser des liens afin de faire valoir mes droits, ma dignité et me faire respecter en tant que personne et proche de détenus.
On parlait de solidarité dans ton dernier passage sur la charte, là, dans ta charte. Et la solidarité, elle n'existe pas en prison. Dès qu'on arrive dans une nouvelle tôle, on a l'impression que les gens, c'est leur prison. C'est à eux. Ils essayent de... Ils vous dénigrent, ils font pire que des juges, quoi. Et il y a vraiment... Alors qu'il y a plein de choses à faire. Tu proposais l'autre jour, Malika, de faire du covoiturage, de s'entraider, quoi.
Il faut prendre confiance en nous. Faut se parler parce que tous ceux qui sont allés au parloir, ils le savent, on se parle pas beaucoup devant les portes des prisons. Alors, on se parle un peu plus dans les maisons centrales ou dans les CD parce qu'on se voit toutes les semaines, on se voit tous les 15 jours. Mais ça demande du temps et puis c'est souvent lié aussi au rapport qu'il y a à l'intérieur entre les hommes, hein, puisque c'est souvent quand même une histoire entre femmes devant les portes des prisons. Donc voilà, ça fait des années que je rêvais qu'à un moment donné on se dise ça suffit, nous on peut se constituer aussi en tant que force, on a des choses à dire, des choses à revendiquer, et c'est vraiment pas impossible. Évidemment ça demande de prendre confiance en nous. Parce que devant l'administration, c'est pas facile d'être seul. Et si les familles, elles prennent, enfin les familles, j'aime pas trop ce terme-là. Si les proches, ils prennent ce pouvoir-là, ça va donner aussi des forces à l'intérieur. C'est un va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. On le sait, quand ça se passe bien à l'intérieur, les parloirs, ils se passent bien. Et si aussi nous, de l'extérieur, on apporte cette force-là, ça permettra aussi dedans. Ce qui se passe des choses. Je ne dis pas d'abolir les prisons après-demain, mais peut-être gratter un peu les murs avec nos petites mains. Voilà.
Et donc maintenant, on va écouter un extrait d'une réunion publique de l'ARPI qui a lieu en mai 2009 et au cours de laquelle se lance cette campagne contre l'isolement et les longues peines. Au début de la réunion, on va entendre Catherine qui lit une lettre de Christophe, donc Christophe Kider, son fils, qui parle de ces régimes d'isolement. Et puis ensuite, on va entendre les personnes présentes qui débattent des modalités de lutte dans le cadre de cette campagne.
Je pense que là, nous, on se place dans un rapport de force. On se constitue en tant que famille, on a des revendications à porter. Le droit, il existe, on peut s'en servir éventuellement. Enfin voilà, c'est les personnes concernées qui doivent mener la lutte.
En plus du changement de couleur, des pigmentations dues au manque ou à l'absence totale de soleil, un changement d'humeur et de tempérament s'opère sans que ce soit perceptible. Seul un tiers peut vous le faire remarquer. Mais pour cela, faut-il encore avoir des visites, ce qui est malheureusement loin d'être le cas pour tout le monde. Donc la possibilité de se recroqueviller sur soi est plus que probable. L'obligation de se blinder pour encaisser tous les coups durs induits par la pression de l'isolement sépare les hommes en deux catégories. Ceux qui deviennent plus forts, ceux qui craquent. Dans les deux cas, la psychologie et la perception du monde est faussée, dénaturée, parfois tordue et fantasmée. Résultat, les uns prennent des cachets et coulent à pic, les autres font peur à la paix, car perçus comme inoxydables et en quête de vengeance. Du coup, le fantasme est du côté de la paix, qui décrit ces hommes comme ultra dangereux et irrécupérables. La famille et les proches, entre parenthèses s'il y en a, voient une personnalité évoluer sans pouvoir faire quoi que ce soit. La famille morfle autant si ce n'est plus. Cet état de fait ressenti des deux côtés est programmé et entretenu par la paix, afin de faire fuir les rares qui résistent auprès des proches incarcérés. Sachant cela, l'homme isolé psychologiquement, physiquement, sensoriellement, perd tous ses repères, voire la tête. La famille et les proches sont aussi isolés. En résumé, il y a ceux qui combattent, ceux qui abdiquent. Les premiers ont compris qu'il n'y avait pas d'autre choix. Les autres croient au pire des poisons existants. L'espoir. Voilà, donc c'était... Je viens de le découvrir et je crois que ça résume... je sais pas, Saïd, toi qui as fait 25 ans de prison.
Bah oui, disons que moi j'ai fait 9 ans d'isolement hein, sur ma peine. Donc je connais un peu le truc. J'ai vu passer des types qui restaient seulement 3-4 jours et qui devenaient tout blancs, qui pétaient les plombs, qui prenaient des médocs.
Des types qui avaient des longues peines...
Des peines normales, mais qui faisaient seulement quelques jours d'isolement et qui pétaient carrément les plombs au bout de quelques jours. Quoi. Bah, pas que tu t'habitues, hein, de toute façon, t'as pas le choix.
Non.
Mais c'est quoi, toi ?
Non, mais tu t'habitues à l'isolement, je veux dire, ou alors pas à l'enfermement. Tu t'habitues ou alors tu te suicides, quoi. Il n'y a pas d'autre solution.
Voilà.
Donc si on décide tous ensemble de poser cette mobilisation et de dire, les gars, on ne peut rien faire sans vous, déjà, les quartiers d'isolement, ils vont se bouger. J'ai des gars qui attendent déjà, même dans les centrales, des mecs qui attendent, etc. Si on relaie la parole sur les différentes radios des uns et des autres, déjà, qui sont liées à l'intérieur, d'accord ? Si on coordonne le truc, cette semaine, c'est toi qui le dis, moi, dans 15 jours, je le dis, la semaine prochaine, c'est toi, et ça tourne comme ça. Et on ne lâche pas le mot d'ordre. Les mecs, on compte sur vous, on ne peut rien faire sans vous. On trouve un slogan pour terminer chaque émission. Tu vois ce que je veux dire ? Le lien, il se fera. Alors moi, je ne te garantis rien, c'est toujours facile de l'extérieur de le faire. Mais je sais que si moi, je demande à 2-3 potes, à mes fils, de faire passer des messages, ils vont passer les messages.
Et Cyril lui-même, qui était à l'intérieur, entre les lignes, on lui faisait lire cette phrase. « Dites à votre maman d'arrêter de se battre dehors. » Et peut-être on va s'arranger. Claude Darcourt, la lettre qui m'écrit le directeur de la pénitentiaire, dans sa lettre de réponse, j'avais mis 7 pages à Darcourt sur Internet, et ben le mec, il m'a répondu. Et entre les lignes, on pouvait lire clairement, si vous arrêtez votre bordel, on pourra discuter. Et ça s'arrangera pour Cyril, c'est ce que ça voulait dire. Mais Cyril leur répondait automatiquement, ma mère, si elle ne s'était pas battue pour moi, je serais mort. Vous m'aviez déjà pété 3 côtes, vous m'aviez déjà cassé 2 fois, vous m'aviez déjà cassé la cheville, j'avais déjà été empoisonné 2 fois, etc. Donc c'est sûr qu'ils font la pression quand tu te bats à l'extérieur.
Il y a du résultat.
À partir du moment où vous arrivez tous à vous mobiliser, ça ne pourra qu'après nous aider parce que quand on fait des recours, si on fait pour un, on peut faire pour deux. Et c'est ça aussi qui fait avancer les choses. Donc toute association, à partir du moment où ça vous permet, famille, et ben de vous réunir et puis de vous battre sur le fait de ne pas pouvoir rentrer au parloir parce que vous avez une heure de retard. Effectivement, il faut de toute façon de la réunion parce que, ben, je ne sais plus qui disait, mais ils veulent à chaque fois dissocier tout le monde, que ce soit l'intérieur, l'extérieur.
Mais si on ne résiste pas à chaque fois, si on était... Alors bien sûr, ça a un côté utopiste, mais si on résistait à plusieurs, à chaque fois, face à des textes de loi, quand je les entends, les nouvelles lois pénitentiaires, elles ont été votées, s'il y avait des vraies mobilisations dans des moments comme ça, on dit « Merde, on n'en veut pas de votre loi, on n'en veut pas pour telle et telle raison ». D'accord, on n'est pas d'accord. Et qu'il y ait une frange de la population qui se met en faux, qui se porte en contrepoids à la fatalité, eh ben, je pense qu'on pourrait... Je ne dis pas que ça changerait. C'est pas en débarque, une association elle débarque un jour et qu'on change le monde. Ça serait trop simple. Mais il n'est jamais trop tard pour essayer de résister et commencer par écrire. Simplement, pour moi, c'est la résistance civique, déjà, pour reprendre un mot à la mode, ou citoyenne. Tu vois déjà, c'est un acte de résistance, dénoncer, écrire, se réunir, se mobiliser, dire, etc. Donc il faut aller vers ça et il faut le faire à plusieurs. Et il y a beaucoup plus de gens qu'on le croit qui en ont marre. Seulement on ne les connaît pas, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont. Et c'est ça, il faut informer, il faut sans arrêt, il faut sortir de nos trous du cul. C'est pour ça que le monde va mal et il pue parce qu'on vit dans nos trous du cul. Excusez-moi.
Et donc, dans le cadre de cette campagne, bah, il y a eu des rassemblements, des réunions publiques, des manifestations. Vous pouvez retrouver une partie de ces archives dans des vidéos sur Dailymotion, donc sur Internet. Et maintenant, on voudrait vous parler donc d'une autre campagne qui a lieu en 2013-2014, donc au moment où Taubira inaugure la prison ultra-sécuritaire de Condé-sur-Sarthe, et au moment où celle de Vendin-le-Vieil est sur le point d'ouvrir. Donc il y a des personnes à l'intérieur et à l'extérieur qui décide de lancer une campagne donc contre ces QHS modernes. Et donc à l'extérieur, ça va être notamment porté par l'Envolée, par l'OIP et par d'autres personnes et collectifs anticarcéraux. Et dans le cadre de cette campagne, il y a un questionnaire qui va être envoyé aux prisonniers qui se retrouvent enfermés, donc les premiers à Condé-sur-Sarthe, pour qu'ils puissent prendre la parole et qui racontent les conditions d'enfermement particulièrement horribles qui prévalent dans ces lieux. Et donc on va écouter maintenant une lecture d'extraits de différentes réponses à ce questionnaire qui ont été renvoyés à l'époque par donc, des prisonniers. Donc voilà, ça va être un collage de différentes réponses, et ces réponses, elles sont classées en fonction de... Enfin, par thème, donc il y a l'arrivée, le machin, enfin, les thèmes sont annoncés à chaque fois, et puis après, on a un enchaînement de réponses. Et directement après, on enchaînera sur... on va écouter une lettre de Christopher qui est adressée à la même époque à l'Envolée et qui parle de l'isolement carcéral.
L'arrivée. La misère. Un comité d'accueil du personnel pénitentiaire afin d'intimider.
Sous la menace, on m'a ramené de force contre ma volonté et depuis mon arrivée dans ce QHS, je me sens otage.
Mon vrai problème, c'est ma présence dans ce cercueil.
J'ai eu l'impression que je n'allais plus sortir de prison. J'ai eu l'impression d'être le seul détenu, retenu comme prisonnier de guerre, retenu par les nazis.
C'est que du béton et de la sécurité pour rien, pas d'espace vert.
Angoisse, repli sur soi-même. C'est un quartier d'isolement grandeur nature. La direction est perdue et c'est aussi une aberration de penser changer un détenu sans aucune perspective d'avenir. Pas de moyens, psy, éducateur, pas d'intervenant extérieur. Il n'y a personne.
Je trouve complètement fou de faire ce style de prison. 64 millions d'euros pour la sécurité, rien pour la réinsertion.
Voilà, maintenant c'est un ensemble de citations de ces prisonniers au sujet de la matonnerie à Condé et leur rapport avec la matonnerie.
Méprisante.
Pas humaine, dépersonnalisée.
Catastrophique, ils nous traitent comme des animaux.
Incompétents, provoquent les détenus.
La majorité, c'est des stagiaires.
Hypocrite, oui. L'hypocrisie, voilà sa fonction.
Là-bas, à Condé, c'est les chefs qui dictent les règles tous les jours.
Le directeur est incompétent. Pour moi, il doit démissionner.
Le surveillant m'a provoqué à 9h du matin alors que je dormais et j'ai pris une peine de prison au tribunal de grande instance d'Alençon.
Il faut toujours s'énerver pour qu'il règle un problème.
Que ce soit lorsque l'on a un problème ou que l'on demande une audience, il faut hausser le ton pour se faire entendre.
En prison, une pétition est une forme de violence intellectuelle. J'ai déjà été mis au quartier disciplinaire pour cela. 15 jours ferme et 15 jours de sursis.
Malgré qu'on ait écouté et compris, on n'apporte pas de réponse. C'est comme si on parlait dans le vide.
Aucune médiation. Juste le quartier disciplinaire comme solution.
Ici, c'est totalitaire. On est puni, puis on discute pour que vous ne gardiez pas de rancune.
Si on prend en otage un surveillant, on est reçu par la direction.
La troisième thématique, c'est sur les régimes de détention de Condé.
Cet endroit a été créé pour mater les rebelles.
Toutes les portes fermées.
Confinement et isolement maximum.
Vidéosurveillance sans pareil.
Les portes des cellules sont fermées, les promenades sont minuscules. Tout est fait pour limiter les mouvements.
Il y a toujours un surveillant pour un déplacement, que ce soit au parloir, infirmerie, sport, partout.
La règle est que la règle est inexistante.
En prison, et bien plus à Condé, le seul droit qu'on a, c'est de se taire.
J'ai appris les règles de Condé-sur-Sarthe le plus souvent après m'être pris la tête avec un surveillant.
La différence de régime existe selon les relations avec l'administration pénitentiaire.
L'application des règles n'est pas la même pour tous les détenus, et souvent arbitraire. Celui qui a des parloirs famille est un peu protégé des abus de pouvoir. Celui qui n'a aucun parloir se voit bafouer tous les droits.
Condé-sur-Sarthe nous infantilise.
On veut réduire l'humain à l'instinct grégaire avec un programme de conditionnement non officiel.
On est traité comme des rats de laboratoire.
Ateliers payés comme des Chinois.
L'exploitation de la misère afin de faire du profit.
J'ai souvent l'impression d'être seule dans cette prison. Et j'ai l'impression que je ne sortirai jamais d'ici, vu que tout est fait pour que les détenus ne soient jamais réunis à plusieurs en activité.
Ce n'est pas une prison pour les longues peines, c'est trop petit. La promenade, le terrain de sport et même la salle d'activité.
Il n'y a pas de machine à laver, pour vous dire.
C'est trop strict, il n'y a pas d'activité, ni de sport, ni de cours pour l'école. Rien quoi, c'est un QHS.
Aucune activité pour m'aider à me réinsérer, aucune communication sur mon avenir. Ici, limite, je suis paumée. Voilà, ensuite, c'est une autre thématique sur le terme de l'éloignement et des volontés de rapprochement familial.
Je n'ai plus de parloir, plus de liens familiaux. Mais là-haut, dans leur bureau, ils savent ce qui est bon pour nous. 8 mois que je n'ai pas vu ma famille.
Plus de 500 kilomètres. Ma femme est malade et enceinte. Elle ne peut pas faire autant de routes.
Ce que je veux, c'est rentrer dans la prison de chez moi, en Guadeloupe, afin de mieux faire ma peine auprès de ma famille.
J'ai bloqué 45 jours au quartier disciplinaire afin d'obtenir le rapprochement familial. Mais ici, apparemment, c'est plus la France. On n'a pas les mêmes droits.
J'ai toujours été en contact avec ma famille, mais peu, car les années de prison, les transferts détruisent les relations.
Depuis ces 9 ans que je suis en prison, j'ai une femme, ma fille qui vit au Liban, ma mère, mon père, ma belle-sœur. J'ai fait des demandes de permis, mais ici c'est le KGB, demande refusée tout le temps.
Et le cinquième thème, c'est sur les aménagements et le manque de perspective quand on est longue peine et le manque de possibilités d'aménagement à Condé.
Je ne connais pas le moment pour aménager ma peine. Je ne connais pas les critères qu'il faut.
Avoir une confusion de peine, qu'on enlève ma sûreté et je serai dans 4 ans en possibilité de demander ma conditionnelle.
J'ai accepté ma peine, mais je désire être près de ma famille et pouvoir déposer ma demande de confusion de peine. Vu qu'ici, chaque déplacement se fait avec le GIGN, cagoulé, mitraillette, il est difficile de pouvoir obtenir quoi que ce soit. En plus, moi, je suis DPS.
Une lettre de Christophe qui a été écrite le 27 janvier 2014. Je vous écris pour vous faire part de mes conditions de détention extrêmes au QMC, quartier Maison Centrale, de Condé-sur-Sarthe. Je suis actuellement à l'isolement pour les faits suivants. Au vu de l'ensemble des éléments précités, votre placement à l'isolement s'avère ainsi strictement nécessaire au centre pénitentiaire d'Alençon, car il constitue l'unique moyen d'assurer l'ordre au sein de l'établissement et de préserver la sécurité de l'ensemble du personnel. Fermez les guillemets. Nous sommes dans un QHS. Cet établissement a été conçu pour nous casser psychologiquement et physiquement, car à l'isolement, les agents sont en permanence casqués pour le moindre mouvement. On nous fait des fouilles à corps pour rien. Je connais votre association, donc il écrit à l'envolée là, depuis des années. Moi, je suis un anarchiste, je suis contre le système judiciaire. Comme je revendiquais tout le temps contre nos conditions de détention, j'ai fait toutes les centrales sécuritaires de France. J'ai fait beaucoup d'isolement et de mitard, car j'ai jamais voulu me plier aux règles de l'administration pénitentiaire. J'ai 28 ans et j'ai été condamné pour des faits de vol à main armée et extorsion de fonds. Je n'ai pas de sang sur les mains. Il faut que vous vous mobilisiez contre ces conditions de détention qui sont intenables. Moi et d'autres garçons, nous continuons la lutte contre les QHS 2013, car si nous ne faisons rien, dans quelques années nous aurons des supermax à l'américaine et nous serons enchaînés de la tête aux pieds. Il faut faire comme dans les années 80, un comité d'action des prisonniers contre les QHS d'aujourd'hui. Contactez mon avocat qui est Benoît David, 22 rue Breguet, 75011 Paris. Je suis en contact permanent avec l'OIP. Si vous pouviez m'envoyer un de vos magazines et des livres sur l'anarchie en prison, je suis à votre disposition. Si vous pouviez venir me voir pour que je vous raconte ce qui se passe à Alençon, merci de nous aider car votre association est précieuse pour nous les détenus. Vive la révolte, fermeture des QHS 2013, force, courage et détermination, l'anarchiste Christophe.
What is born, you get wrong. I have you sing like Louis Armstrong, and I say to myself, what a wonderful world. But what the fuck was so wonderful about picking cotton on a farm? The harder they come, the harder they fall. So come one, come on. Don't stall, low, I'ma stick you like a voodoo doll. Door slot, stop, draw for the count who dropped. And that is everything covered when you stop to make it from the boondocks. Out of who the field, land that the ill kill. Valsburg Viking, so you know I'm top ranking, Phil. Some say newcomer like the humor, but say the rumor. Cause I've been rocking ever since 83 when I used to rip my Pumas. Right. Psychotic, so here's the statistic. 1 out of 10, I pass on the mic, that's how I like the cricket. Heard the man who went before, got intimidated. You tried to gas me up, too much gas, you got intoxicated. You wasn't ready for the villain, dealing, chilling. White clap, no competition when I'm here, pure death. I'm jumping like a monkey to get my zone. I'm from a caterpillar to the mic north.
Voilà, donc avant la musique, c'était les Fugees, et avant, on a entendu une lettre de Christopher l'anarchiste en direct du quartier d'isolement de la prison de Condé-sur-Sarthe. C'était en 2013, et je vous rappelle que les sons que vous avez entendus, ils dataient d'une campagne contre les longues peines et les quartiers d'isolement initiée par l'association ARPI en 2008-2009, et ensuite, vous avez écouté d'autres sons de la campagne de 2013-2014, contre les QHS, quartiers de haute sécurité moderne, leur version moderne, malheureusement qui se réactualise toujours, étant donné qu'on va continuer à parler de ce qui se passait en 2013-2014 et qui fait malheureusement écho à ce qui se passe aujourd'hui en 2026. Donc maintenant, on va vous passer les extraits d'une réunion publique qui était intitulé « Contre les peines infinies et pour la fermeture immédiate des QHS modernes ». Cette réunion, elle a eu lieu le 2 avril 2014. Voilà, en 2014, on dénonçait déjà l'ouverture de Condé-sur-Sarthe, dont la petite sœur Vendin-le-Vieil allait bientôt ouvrir, si je me souviens bien, qui étaient déjà des QHS et qui ont empiré récemment, comme vous le savez, on vous le parle souvent. Donc dans cette réunion publique, l'idée c'était de rassembler un peu du monde, un peu tous les gens qui critiquaient ce qui se passait en détention à cette époque-là, et de fédérer les forces vives, mais pas très nombreuses, effectivement, qu'il y avait déjà à l'époque. Dans le document que vous allez entendre parler, dans le désordre je pense, Philippe El-Chenaoui, qui est un prisonnier qui avait effectué une très longue peine et qui était sorti en libération conditionnelle après 38 ans d'incarcération. Vous allez entendre aussi Pierrette Poncella, qui était professeure de droit pénal à Nanterre et qui a pas mal dénoncé l'allongement des peines à cette époque. Vous allez entendre Delphine Boisel, avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit pénitentiaire et qui était à l'époque membre de l'OIP, Observatoire International des Prisons. Et puis au début, vous entendrez notre poteau parti trop tôt, malheureusement, notre poteau Olive qui faisait partie de l'envolée et qui présentait l'envolée. Voilà, donc je vous laisse écouter ces 54 minutes d'extrait sonore d'une réunion publique qui a eu lieu en avril 2014.
Parce que si c'est pour faire mourir les gens à petit feu en prison, c'était pas la peine de tous ces combats et de tous ces efforts pour supprimer la peine de mort.
La philosophie ici en France, c'est la punition. Hein. Vous payez votre peine toute votre vie. Moi, ça fait 8 ans que je suis dehors, je paye encore, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
On fait des robots ou alors carrément, comme vous êtes tout à l'heure, ou des fauves. Et après les fauves, et bon, on les fabrique, et après il faut gérer ça à l'extérieur. Alors, comment fait la société après avec ces fauves qu'elle a créé ?
Mais vous êtes en train de fabriquer des véritables bombes. Parce que le régime actuel, l'échelle des peines, devient tellement démesurée que vous allez coucher sur 100 personnes, vous allez en coucher 90 par terre. Cela, d'accord, ils n'auront plus de réaction. Ce seront des légumes, vous aurez gagné. Mais les 10 autres, vous allez en faire quoi?
Donc le système gère les problèmes sociaux par la répression. Si aujourd'hui tu bouges une oreille, tu te fais fracasser.
Le 2 avril, chez Lucio, au temps des cerises, à Paris, s'est tenue une réunion d'information et de discussion sur la situation actuelle, juridique et carcérale. Les thèmes de la discussion portaient sur l'allongement des peines, la politique d'absence d'aménagement de peine, la construction de nouvelles prisons, type Réau, Annelin, etc.
Bonsoir, je vais me présenter d'abord, je m'appelle Olivier Cueto, je fais partie du collectif qui s'occupe d'une émission de radio parisienne qui s'appelle L'Envolée, hebdomadaire, tous les vendredis sur fréquence Paris Pluriel, de 19h à 20h30, et aussi d'un journal trimestriel, donc qui s'appelle aussi L'Envolée, qui est diffusé dans des librairies par abonnement, et puis dans des lieux précis où on arrive à le laisser. Enfin, c'est une distribution qui reste mi-confidentielle, on tire à 2500 exemplaires, et c'est donc pas assez. Je voudrais commencer par dire que la particularité de ce journal, c'est qu'un de ses principaux objectifs, c'est de transmettre la voix des prisonnières et des prisonniers, c'est-à-dire ceux qui en sont en général privés, au travers de témoignages, de récits, mais de prisonnières et de prisonniers qui sont en lutte. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont à l'intérieur et qui se battent, même des petits combats, hein, il n'y a pas de petits combats de toute façon, eh ben, puissent être connus à l'extérieur. Il y a eu cet été une série de mouvements à l'intérieur des prisons, Bourg-en-Bresse, Châteaudun, Blois, etc. Et le point commun de ces mouvements, c'était des mouvements de révolte, de contestation contre l'absence de politique d'aménagement des peines. C'est-à-dire que personne d'entre eux ne pouvait voir, ne serait-ce même qu'un conseiller d'insertion de probation ou encore moins un JAP, et donc espérer un aménagement de peine comme une permission ou une libération conditionnelle. Cet hiver, vous l'avez certainement plus entendu, il y a eu d'autres mouvements de ce type, dont Moulins, Les Baumettes, Argentan, et puis d'autres là qui ont été extrêmement médiatisés, dans la nouvelle prison forteresse qui vient d'ouvrir au printemps dernier, qui est la prison de Condé-sur-Sarthe, qui est prévue pour enfermer les prisonniers qui ont ramassé des très longues peines, et plus précisément aussi les prisonniers qui posent problème à l'administration pénitentiaire et au ministère de la Justice. Cette prison venant d'ouvrir, il y a eu le ressenti des questionnaires qui ont été distribués par l'OIP, Banque Publique et nous-mêmes à l'intérieur pour que les prisonniers nous expliquent un peu la façon de ce qui s'est passé, qu'on ait leur voix directement. Et ce qui ressort de là, c'est que c'est un véritable tombeau, une espèce de QHS, une forteresse, un QHS moderne, qui est réellement conçu pour laisser mourir à petit feu à l'intérieur. Et quelle que soit la forme de la révolte qui soit prise, que ce soit une prise d'otage, entre guillemets, ou un refus de remontée de promenade, comme il y a eu aussi, et ça a pris plein de formes, quelquefois tout seul, quelquefois de façon collective, c'est toujours ça qui est mis en cause. Et ça commence par l'absence de possibilité de parler avec un interlocuteur à l'intérieur de la prison. C'est-à-dire, les deux premiers lieux, c'est soit le directeur, soit le juge d'application des peines. Donc avec un refus donc, de se laisser crever comme ça, doucement. Nous, à l'extérieur, cette parole, on la reçoit via les médias traditionnels. On les reçoit comme des signes de violence, la plupart du temps violence gratuite. Bon, je ne parle même pas des échos des syndicats pénitentiaires qui en profitent pour dépeindre les prisonniers comme toujours un peu plus monstrueux. Mais on n'arrive pas à nous, à l'extérieur en fait, à en faire quelque chose, et c'est bien ça qui ne fonctionne pas. L'Envolée existe depuis maintenant 15 ans. On sait très bien, on n'a que pratiquement zéro effet, si ce n'est de donner un peu de respiration aux gens qui sont enfermés à l'intérieur. Mais sinon, en ce qui concerne la politique de la longueur des peines et des aménagements de peine, notre effet, il est nul. C'est vrai pour à peu près toutes les associations ou organisations qui s'occupent de près ou de loin aux problèmes judiciaires et carcéraux. Et c'est bien ça qu'il faut arriver à changer pourtant à un moment donné, parce que pendant ce temps-là, le ministère de la Justice, les différents gouvernements, etc., eux, fabriquent des lois, les magistrats aussi, les députés fabriquent des lois qui continuent à enfermer toujours un peu plus, de plus en plus de monde et pour de plus en plus longtemps. C'est pour ça que il nous semble urgent aujourd'hui qu'il y ait plus qu'un débat d'opinion, qu'un débat d'idées, même si on est contre, même il ne suffit pas d'être contre l'existence des prisons, il faut qu'on arrive d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire en se donnant des points précis, un programme précis, à peser chacun là où on est, chacun en organisant des forces précises. On ne vient pas des mêmes endroits, il y a ici des professeurs, il y a ici des gens de la presse, il y a ici des étudiants, il y a ici des avocats, il y a aussi des docteurs, des psychiatres, et chacun de ces places-là, il faut qu'on arrive à organiser, évidemment c'est pour ceux qui le veulent, hein, et on peut penser pour ces personnes, mais à organiser une résistance, quelque chose de façon précise. D'autant plus maintenant que là, il y a une échéance devant nous, l'échéance n'est pas nous qui l'avons donnée, il y a, paraît-il, une réforme pénale qui s'annonce. On a vu l'annonce de la réforme pénale au-delà de ce que c'était au mois d'avril, il y a eu un projet, et ce projet, de ce qu'on a compris, d'autres le développeront là, ce projet n'a pas réellement abordé le problème de la longueur des peines. Pour nous, il a surtout abordé celui de comment on allait faire pour maintenir sous main de justice toutes ces nouvelles personnes qu'on allait condamner à des petites peines, parce qu'il ne s'agissait pas de les laisser impunis quand même. Bon, en tout cas, pour ce qui est des longues peines, pratiquement rien. Et les courriers qu'on a eu des prisonniers, depuis, vont tous dans le même sens. Donc il faut qu'on arrive à poser différents points comme ça, et on a des petites pierres d'achoppement dont on peut se saisir. Il y a des choses, il y a par exemple les périodes de sûreté qui sont en place depuis 1980, depuis que la peine de mort a été soi-disant abolie, qui sont en place, sur lesquelles il faut pouvoir jouer. Il y a des nouvelles données dans l'aménagement des peines, comme des articles, évidemment qu'on ignore quasiment tous, mais qui sont des articles qui empêchent complètement la sortie, ou alors qui la rendent quasiment impossible, à moins d'y passer des années et des années, certains l'ont fait, heureusement pour eux, mais une perspective de sortie. Cet article-là, c'est une création comme ça, au travers d'une loi, de ce qui s'appelle des commissions pluridisciplinaires de mesures de sûreté. On ne sait pas ce que c'est, nous maintenant on sait ce que c'est, mais ça il faut, c'est aussi un point sur lequel on va en parler, on peut s'arrêter et essayer d'agir dessus. Là je vais laisser la parole soit à Pierrette Poncela pour réussir à commencer
à toucher du doigt.
Ouais, à toucher du doigt
la réalité de ce qu'est véritablement ces articles.
Pierrette Poncela.
Donc l'objet, c'est de lutter, d'essayer de trouver des instruments qui permettent de réduire la longueur des peines. Première chose, pour moi, d'abord, hein, la longueur des peines en elle-même. Et la deuxième chose, c'est essayer d'arriver à contourner, si c'est possible, ça c'est le travail des avocats, je crois, en partie, mais pas seulement, tous les dispositifs qui ont été créés singulièrement ces dernières années, pour faire que les libérations soient de plus en plus difficiles, et notamment pour les longues peines. Or, pourquoi le projet de réforme ne dit rien là-dessus? Parce que c'est la loi du nombre. La loi du nombre, c'est que la majorité des personnes qui sont en détention exécutent des petites peines. Et donc, il y a un énorme problème de surpopulation carcérale, comme on dit, mais qui touche évidemment les maisons d'arrêt.
Les longues peines.
Voilà, ça ne touche pas les longues peines. Alors, les longues peines. En France, on a connu une période idyllique, si j'ose dire, parce qu'elle n'était pas sur d'autres choses, où il n'y a plus eu de réclusion criminelle à perpétuité. C'est le premier de nos codes pénaux, le code pénal révolutionnaire de 1791. Il n'y avait plus, on avait supprimé la réclusion criminelle à perpétuité. Mais on supprime la réclusion criminelle à perpétuité, mais on maintient la peine de mort. Échec des réformateurs. Et depuis, il y a ce lien entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut une peine, quelle qu'elle soit, qui élimine, et qui élimine plus ou moins définitivement, même si on dit autre chose. Il y a toujours ça, cette idée d'élimination. Quelques chiffres sur les longues peines. J'ai les chiffres, puisque c'est quand même faire sortir des personnes qui sont en longue peine qui nous intéressent. Combien il y a de personnes à un moment T, hein, c'est les statistiques que l'on a, qui exécutent des très longues peines. Quand on regarde l'évolution, c'est des chiffres de l'administration pénitentiaire, hein, tout à fait fiables, une réclusion criminelle à perpétuité, là, on ne peut pas dire qu'il y ait une augmentation. C'est stable. Si je prends 2013, c'est les derniers chiffres, c'est ceux que j'ai regardés, sur ces années-là, il n'y a pas d'augmentation, ni en chiffre absolu, ni en pourcentage.
D'un point de vue historique, il y a eu la suppression de la peine de mort. Ce qui s'est passé derrière,
oui, je sais, on a créé
les peines ont changé, et on a créé volontairement cette peine de 30 ans.
Oui, oui.
C'est pour l'opinion publique qu'elle a été créée. C'est-à-dire, on dit, voilà, on va...
Oui, je suis d'accord.
À l'époque, la perpétuité, c'était 15 ans, moins un délai d'épreuve qui était d'une année. C'est-à-dire, les gens faisaient 14 ans. C'était raisonnable encore, on va dire raisonnable entre guillemets. C'est toute une vie, 14 ans.
Oui.
Ce qui a été créé, donc, c'est les peines de sûreté.
Oui, mais ça, on va y venir après, si
d'accord,
vous voulez
d'accord,
bien.
Allez-y.
Et puis, la réalité, aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui exécutent des peines comprises entre 20 et 30 ans. Et ça, en revanche, c'est très, très net. Je vous donne, peu importe les chiffres, hein, absolus, mais les pourcentages, qui sont parfois plus parlants. Si on prend l'ensemble des peines criminelles, en 2000, il représentait 8% des personnes exécutant une peine criminelle. Aujourd'hui, dernier chiffre, c'est le 1er janvier 2013, 24% des détenus exécutant une peine criminelle. Ensuite, si on regarde les personnes qui sortent en fin de peine, et donc là, il n'y a pas eu de libération conditionnelle, qui sortent en fin de peine, il y en a de plus en plus. Si je prends toujours 2000, 64%, qui sont sortis en 2012, cette fois-ci, 76%. Nous avons un CPIP qui a fait ses statistiques au niveau de la centrale de Saint-Martin-de-Ré. Il nous dit que 70% des demandes de libération conditionnelle sont rejetées actuellement à Saint-Martin-de-Ré. Il nous dit le découragement des personnes détenues, c'est-à-dire que, alors il a fait ses petits calculs, hein, 43% des condamnés à une réclusion criminelle à perpétuité éligibles ne les demandent plus. C'est pas nouveau, hein, ça, mais quand même, hein, les chiffres augmentent. Nadia m'avait dit, qu'est-ce qu'il en est du côté de l'Europe ? Alors l'Europe, vous savez, pour beaucoup, c'est un peu le mirage, c'est formidable. Enfin, je veux dire, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne, c'est formidable. Attention, tout ça a aussi changé. Si l'on regarde, je prends juste deux exemples, le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe des droits de l'homme, hein, pas l'Union européenne. Vous savez qu'ils produisent des résolutions, des recommandations. 1976, résolution sur les détenus purgeant des peines de longue durée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Au plus tard, après 8 à 14 ans de détention, il doit y avoir un examen répété régulièrement pour voir s'ils sont éligibles à la libération conditionnelle. Ça, c'était 76. 2003, c'est plus du tout pareil, la recommandation de 2003. Le traitement des détenus de longue durée. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une gestion, hein, c'est tout le vocabulaire qui a changé, de ce type de détenus pour que ça se passe mieux. Pour eux, sans doute, mais aussi pour la gestion des établissements. Il n'y a rien à redire là-dessus. Hein. Aussi, on comprend que la gestion doit être meilleure. Mais on voit que ça a changé. Il n'y a plus rien sur les délais. Plus rien. Aucun délai n'est avancé. Et il est même dit que, certes, les condamnés à des réclusions criminelles à perpétuité doivent aussi bénéficier de libération conditionnelle, mais ça n'est pas une obligation. D'accord ? Donc ça, c'est le Conseil de l'Europe, les droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, il y a eu une opposition entre le Conseil de l'Europe droits de l'homme et l'Union européenne, le marché, des trucs comme ça. Bon, l'Union européenne est devenue une énorme machine à produire des textes juridiques et énormément en droit pénal, avec la coopération judiciaire, policière, etc., surtout judiciaire. Bon, et donc, le Conseil de l'Europe, qui a été en opposition à un moment, c'est fini. Donc, il a viré à droite, si j'ose dire, du côté de l'Union européenne. Et on voit de plus en plus un rapprochement entre, en matière pénale, ces deux textes. Je vais vite, hein, je veux pas. J'aurais bien d'autres choses à dire sur l'un et l'autre. La Cour européenne des droits de l'homme aussi, il ne faut pas trop espérer d'elle, mais les avocats, en revanche, peuvent encore agir sur quelques petits points, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Quelle avancée ? Elle donne un délai raisonnable, au bout duquel on devra examiner la situation. 25 ans.
C'est tout à fait raisonnable. Ça.
25 ans. Vous voyez, c'est vraiment raisonnable.
Mais moi, ça me dépasse.
C'est 25 ans. Et ces 25 ans, elle ne dit pas comment doit se passer le réexamen. Elle n'a aucune exigence. Ça peut être un droit de grâce.
Comment doivent se passer les 25 années ?
Le mieux possible.
Alors, c'est-à-dire. Les stocks, on les dépose quelque part et puis on attend.
Non, mais alors là, il y a
donc,
tout.
La réalité,
non, alors
c'est ça.
Sur les conditions de détention, la Cour européenne, là, est un peu plus, quand on la saisit du moins, exigeante. Hein. Conditions humaines, pas
c'est
traitement inhumain et dégradant. Sur les conditions.
Vous le savez. Même quand le pays est condamné.
Résultat pour la France. Nous, on a ce qu'on appelle une réclusion criminelle à perpétuité réelle qui a été introduite à la suite d'un fait divers. Dans un cas très particulier, on peut être condamné à perpétuité avec une période de sûreté perpétuelle. Perpétuelle aussi. Quand on est condamné à perpétuité, elle est perpétuelle. Si on est condamné à 30 ans, c'est 30 ans. C'est la loi de 94.
94.
Mais oui, ça existe.
De relèvement de la période de sûreté.
Alors, la période de relèvement, elle, est au bout de 30 ans. Alors, en Europe, il y a quand même 9 États membres du Conseil de l'Europe, on est 47 au Conseil de l'Europe, qui n'ont pas du tout la réclusion criminelle à perpétuité dans leur législation. Donc, je pense que nous, on pourrait proposer la suppression. Si la France était le 10e pays, je ne vois pas qu'on s'écroulerait. Il y a beaucoup de pays où le délai pour demander une libération conditionnelle est plus court. Et notamment, un pays qu'on donne toujours en exemple, qui est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 15 ans. L'Allemagne, l'Autriche, c'est 15 ans. En Finlande, après 10 ans. Au Danemark, après 12 ans. En Suède, après 18 ans. Vous voyez, donc, il y a des pays qui ne sont pas des pays qui sont ravagés par des criminels très dangereux qu'on a laissés sortir trop tôt, et qui ont des délais plus brefs pour examiner. Si j'en viens aux petits dispositifs juridiques qui ont été ajoutés. Donc pour moi, d'abord la longueur des peines en elle-même. Ensuite, ce qu'on avait évoqué, vous vous souvenez, c'est le cumul des peines. Le cumul des peines, c'est-à-dire il y a des peines maintenant qui ne peuvent pas être confondues. Donc dans les mouvements que vous évoquiez à Condé-sur-Sarthe mais autres, une rébellion, on est condamné pour rébellion, il n'y a pas de confusion possible.
Évasion,
bien entendu, pas de confusion possible. En revanche, prise d'otage, il y a confusion. Alors la seule solution, c'est le droit de grâce individuel. C'est la seule voie juridique possible. Hein. Vous disiez, ce que moi je ne peux pas, j'ai pas vérifié, c'est que lorsque en 75 il y avait des mouvements dans les prisons, les peines qui étaient prononcées à l'encontre des mutins étaient beaucoup plus faibles.
Hein,
dans l'envolée que vous notez, 6 mois maximum.
Pour la destruction de
la Condé sur Sarthe, on est allé jusqu'à 8 ans, je crois. Donc les peines prononcées, évidemment, sont, me semble-t-il, plus graves. Hein. Pour la libération conditionnelle, ce que j'ai dit depuis pas mal d'années déjà, c'est que on a créé des dispositifs qui font que la libération conditionnelle a été marginalisée. Ça a commencé avec le suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire est appelé peine complémentaire juridiquement, mais en fait, ça se trouve à s'appliquer quand on a fini la peine, quand on sort. Donc, quelqu'un qui a un suivi socio-judiciaire, de toute façon, même s'il n'a pas de libération conditionnelle, il sera suivi. Ensuite, on a créé la surveillance judiciaire. Alors ça, c'est un truc tout à fait pervers. C'est-à-dire qu'on a obtenu des réductions de peine pour bonne conduite quand on était en détention. Alors on se dit on sort avant, tant mieux. Ah non, non. Pendant le temps des réductions de peine, vous êtes sous surveillance judiciaire. Et là aussi, soumis à, je décris pas toutes les obligations. Et on a créé les mesures de sûreté. Donc 2008, la surveillance de sûreté qui est déjà à tout cap. Donc même si vous n'avez pas de libération conditionnelle, de toute façon maintenant il y a la surveillance de sûreté. Il y a un emboîtement, hein. On peut avoir suivi socio-judiciaire et surveillance de sûreté, on peut avoir surveillance judiciaire et puis ça ne va toujours pas, vous avez la surveillance de sûreté après. Il y a des conditions sur la peine qui a été prononcée, etc. Hein. Ça contribue à marginaliser la libération conditionnelle. On peut demander la suppression de la période de sûreté tout de même. Quand elle a été introduite, c'est 78. Mmh. Les débats à l'Assemblée nationale sur la période de sûreté en 78, le Parlement était tout à fait divisé dessus. Pourquoi, ils étaient divisés.
Mais pourquoi on a mis les périodes de sûreté?
Quel était le bruit qui était répandu au niveau de la population? C'était à la suite d'un fait divers.
Toujours, mais il y avait même des procureurs et des magistrats qui disaient, voilà, vous lui donnez 10 ans, il n'en fera que 3 par rapport aux grâces. Et oui. Donc, la création des peines de sûreté, enfin des périodes de sûreté, c'est pour être certain que la personne fait la moitié de la peine avant de poser la peine réelle. Hein.
Bien sûr. Après, il n'y a plus de discussion sur l'opportunité, il n'y a plus qu'une discussion sur le caractère systématique de la période de sûreté. C'est-à-dire qu'on voit quand même une évolution, c'est-à-dire plus on fait des lois qui sont restrictives et répressives, plus on s'y habitue. Et après, pour les supprimer, c'est terrible.
Ceux qui les subissent, ils s'y habituent pas.
Et alors, vous me parliez de OI-730-2 qui a été introduit en 2011, qui a accru le rôle d'une chose, je ne comprends pas même que ça existe, les commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté. Qui ont été créés en 2005 et ensuite on a cessé d'accroître leur rôle. Bon, ces commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté ne servent à rien, mais très franchement à rien. Elles sont présidées par le président de la Chambre de l'application des peines et puis il y a les autorités. Hein, disons, le représentant de la police, du barreau,
de
la gendarmerie, des victimes, etc. Bon, voilà. Et cette commission doit rendre un avis. Plus ou moins motivé d'ailleurs, hein, un avis qui est transmis ensuite au tribunal d'application des peines.
Un avis qui est uniquement consultatif. Hein.
Consultatif, elle a 6 mois pour statuer, mais tout le monde dit qu'elle ne respecte pas les 6 mois.
Non, au départ, ils avaient 6 mois, ça a été prolongé, maintenant ils sont passés à 9 mois.
Dans la pratique, c'est combien?
Ça va jusque 18 mois
entre
maintenant.
9 et 18.
Ça peut aller jusqu'à 18 mois.
Et c'est uniquement consultatif.
Il faut la supprimer. Il faut demander la suppression des commissions.
Quel est le moyen légal d'y arriver?
C'est le Parlement. Il faut demander la suppression. Bon, alors les JAP me disent non, c'est irréaliste, et là, ça ne bougera plus. Alors, ce qu'on va faire, ce que certains JAP font, il faut qu'ils le fassent, c'est-à-dire que dès qu'au bout de 6 mois, l'avis n'est pas rendu, hop, on passe outre. Ils peuvent le faire.
C'est prévu par la loi.
Hein, ils peuvent le faire.
Avec un appel systématique du parquet. C'est les instructions qu'ils avaient reçues par Mme.
Je le sais. Donc, je pense qu'il n'est pas tout à fait impossible, malheureusement, ce n'est pas partout, d'avoir un accord avec le parquet.
Non, mais ce n'est pas contre vous que je dis ça. Mais c'est un constat, simplement. Mais vous vous rendez compte du type qui attend pendant des années.
Je
le sais. Au dernier moment, il est encore dans l'incertitude.
Je le sais.
Et encore reporté.
Je sais.
Attendez, il vaut mieux les tuer.
Mais je sais, mais c'est ce qui est arrivé avec Pierre Just de Marny. Hein, oui, Pierre Just de Marny, cet homme qui a passé 48 ans en détention, allant des hôpitaux psychiatriques aux maisons centrales, il était originaire de Martinique.
Et il était sur le continent.
Il a fait toute sa peine sur le continent, il a toujours refusé d'être condamné par des métropolitains. Il estimait qu'il était en exil. Il obtient enfin d'être envoyé en Martinique. Il demande une libération conditionnelle, et là, qu'est-ce qu'on lui dit ? Ah ben non, vous êtes obligé de retourner en métropole, au Centre National d'Observation. Qu'est-ce qui s'est fait ? Il s'est pendu. On a cet exemple. Ils envisagent du coup de créer un CNE pour les territoires d'outre-mer.
Ah oui, ça va créer des postes. On en rigole comme ça, mais je suis en train de penser à ces gens. Mais c'est de la folie.
Oui, je sais. Le suivi socio-judiciaire, il doit être prononcé par les juridictions de jugement. Quand il ne l'est pas, on a créé une catégorie qui s'appelle le suivi socio-judiciaire encouru. Donc, la juridiction ne l'a pas prononcé, qu'à cela ne tienne. Il était encouru. Donc, sur la personne qui encourait un suivi socio-judiciaire, on a créé des mesures d'exécution des peines restrictives des libérations.
C'est uniquement une question d'interprétation aussi.
Non, là, c'est la loi qui le dit.
Interprétée par le magistrat. Ne serait-ce que même au niveau de la mise en examen.
Oui.
Quelqu'un va passer pour vol à main armée. À côté, on va y mettre vol à main armée, séquestration. Alors maintenant, il y a toute une palette comme ça qu'on met.
Oui,
c'est-à-dire, c'est large. Par exemple, si je prends mon cas, il y a des années, je ne me serais pas retrouvé dans ces conditions-là. Je me retrouve avec séquestration. Séquestration me fait encourir le CPMS et la CNE, etc.
Oui. Je vais m'arrêter là. J'ai donné quelques petits trucs. Je pense que c'est à Philippe de...
Non, ouais. Philippe, finalement, il n'a pas grand-chose à dire parce que vous m'avez désespéré en entendant ça. C'est-à-dire, on parle de textes de loi. Non, ce n'est pas vous qui êtes en cause. C'est simplement la façon de voir les textes, les interpréter. On a l'impression qu'on parle de littérature alors qu'il s'agit d'être humain.
Je sais
que moi je suis naïf là-dessus.
Je regarde ce qu'on peut faire avec le droit, quoi. On ne peut pas grand-chose.
Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? On parle de justice. Oui, mais résister, mais les types à l'intérieur, ça fait des années déjà qu'ils résistent.
Ah oui.
Et il y en a de plus en plus qui ont conscience de ce qui se passe. Attendez, quand ils voient à côté, je prends par exemple le cas de quelqu'un de bien précis, Christophe, il a écrit récemment. Il a dit, Christophe Kider, il a dit, j'ai 40 ans, c'est quelqu'un qui a été condamné d'une certaine manière, alors qu'on savait pertinemment que c'était un accident. On prend des gens, on en fait des monstres, on les représente comme des monstres. Le monstre, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Peut-être à un instant T pour chacun d'entre nous dans sa vie, mais ça n'existe pas. C'est une façon de vouloir tuer l'autre d'une autre manière. Donc là, on prend par exemple le cas de Christophe Kider. Qu'est-ce qui se passe? Il a écrit à Madame Taubira. Il a dit, voilà, moi, j'ai fait ça, j'ai mérité une peine. Le fait de prendre 20 ans, on donne un prix à une vie quelque part. J'accepte de payer 20 ans. Mais ce qu'on m'a fait derrière, le cumul de toutes ces peines, c'est inacceptable. La façon dont on le fait vivre, c'est inacceptable. Quel espoir, quelle attente, comment pouvoir se projeter? Est-ce que vous pouvez me le dire? Personne ne peut le dire. Et lui, il vit ça au quotidien. Et il attend quelque chose.
Oui.
Il a écrit à Taubira pour lui dire, regardez, c'est ce qu'on... Et il fera quelque chose, Christophe. C'est là le problème. C'est ça qu'on attend. Mais ils ne répondent pas, ou alors on répond comme monsieur, comment il s'appelle, Clément, il a répondu, au 10 de Clairvaux, il a répondu chiche. Quel grand homme, bien, hein.
Clément, Pascal
Clément, celui qui a fait la réforme sur la récidive, disant, etc.
Ça suffit l'hypocrisie, venez, coupez-nous la tête. Venez dans la cour à Clairvaux, venez avec une guillotine pour nous.
C'est horrible.
Et lui, il a répondu chiche.
Bon, en même temps, avant, il était représentant dans les... machine à photocopier, pas tellement le rapport avec la justice. Gestion du stock, ça je l'ai lu aussi dans les statistiques du ministère. Gestion du stock.
Ah, c'est abominable, c'est le... Oui. C'est le vocabulaire des démographes et des statistiques.
On parle de nous, oui, mais c'est des êtres humains, mais gestion du stock.
Ouais.
On va dégraisser le stock aussi. Ouais. Mais bon, tout ça, c'est des belles paroles, mais j'ai une position quand même à part ici. Moi, j'ai vécu ça.
El-Shenaoui.
Peut-être pendant que j'étais en train de vivre ça, il y a déjà des années en arrière, 75, 80, 90, 95, 2000, etc. Il y avait déjà des réunions, des colloques, des gens qui discutaient. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? C'est très bien, vous avez une bonne pensée, mais qu'est-ce qu'il en est sorti? Il y a des gens différents, comme ça dès le départ on a décidé de tuer d'une autre manière. Comment peut-on concevoir qu'on parle de justice? Est-ce que la justice est pour tout le monde ou pas? Alors oui, c'est vrai, je suis naïf quelque part. Mais si on condamne quelqu'un au nom d'une justice, il faut que cette justice soit, je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose de sacré, la justice. On fait, mais si. Alors, si vous, prof, vous faites la grimace quand je parle de justice, c'est un problème.
C'est un mot que j'utilise très peu. Je parle du ministère du droit.
Ah, ministère du droit et de la loi.
Oui.
Il y a des magistrats qui m'ont dit ça aussi. Hein.
Oui,
ils m'ont dit, on ne peut pas parler de justice, ne venez pas évoquer le cas de la justice. C'est grave quand même.
Non, c'est réaliste.
Ouais, bah alors on est des grands naïfs. C'est pour ça qu'on est resté en prison. Parce que j'ai une autre idée des choses.
C'est pour ça qu'il faut changer le droit.
Il faut changer l'être humain.
Ah, mais ça, c'est tout. Ah, voilà, il y a la différence.
Non, mais là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire?
Je suis contre les prisons. Mais une fois que j'ai dit je suis contre la prison, que j'ai dit par écrit et n'importe où, même pas pour mes ennemis, la prison. D'accord. Mais on me dit, et quelle est ta solution? Moi, ma réponse, je n'ai pas de solution. Mais en tout cas, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas la solution non plus. Toi, mon ami, que tu as fait tant d'années, ta réflexion aujourd'hui, comment on pourrait apporter quelque chose à cette inhumanité? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peu, il ne s'agit pas de faire des grands discours ou des grands... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que je vois l'intérêt. Et partout, c'est pareil. Les gens, ils sont très, très motivés. Et c'est tellement injuste, tellement idiot. Enfermer les gens pendant des années et des années, ça mène nulle part. Quelle est ta réflexion?
Je pense d'abord, Edune, que c'est bien ce que tu dis là, parce que là, c'est intéressant. Je pense tout d'abord que c'est au nom, à votre nom, à vous tous. Donc c'est une prise de responsabilité. Il faut se sentir concerné. C'est votre responsabilité. C'est en votre nom, bon, peut-être pas tous parce que vous êtes trop jeunes, c'est en votre nom que j'ai été condamné. C'est en votre nom que j'ai subi ça, moi. Donc vous avez une part de responsabilité également, et donc vous avez une prise de position à prendre. Ou vous estimez que les gens qui vont en prison doivent y mourir, et dans ce cas-là, il ne faut pas être hypocrite. On ne parle plus de justice, de réconciliation, on ne parle plus de contrat social, on ne parle plus de rien de tout ça. On parle uniquement de vengeance. Et dans ce cas-là, il faut avoir le courage d'une société civilisée, ben, il faut recouper les têtes ou trouver un autre moyen. Mais il ne faut pas laisser des gens pourrir en prison comme ça avec cette idée. Donc quand ils demandent qu'est-ce qu'on peut faire, c'est prendre position. C'est dire non, on n'est pas... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Hein. Je n'ai jamais été d'accord avec certaines choses et j'ai toujours dit. Maintenant, ce n'est pas une histoire de courage, c'est simplement une histoire de conscience. Est-ce qu'on peut accepter que ça se passe dans le pays où on vit ?
Monsieur Canetti, psychiatre, qui a accepté d'être cité lors du procès d'un prisonnier qu'il avait pris en otage pour dire qu'il comprenait son geste.
Je suis tout à fait de votre avis. La prison, pas pour mon pire ennemi. Effectivement, à chaque fois qu'on réfléchit et qu'on donne cet élément, ce qu'on nous rétorque, c'est « mais qu'est-ce que vous avez à proposer à la place ?» Et effectivement, on est tous sans voix parce qu'on n'a pas grand-chose à répondre à ça. Et je trouve que votre proposition, elle est vraiment intéressante. Comment est-ce qu'on va pouvoir changer de façon de penser pour pouvoir justement contourner cette question de nous mettre dans la position de trouver la solution pour partir du préalable que ce qui se passe actuellement n'est pas acceptable. Et je suis tout à fait d'accord. Enfin, ça me paraît fondamental de partir de cette position plutôt que de dire on envisagera ça le jour où on aura trouvé une solution alternative. Je pense que c'est... Après, ça ne veut pas dire qu'en pratique, ça va donner des choses très, très concrètes. Hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la loi, de la réforme pénale, ça va pas se concrétiser. Et je pense qu'effectivement, dans ces groupes, puisque vous disiez qu'ils existaient déjà en 75, en 80, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une limitation dans la façon de penser. Et je trouve qu'il est intéressant de partir de ce postulat.
La prison n'est pas faite pour punir les détenus ou les délinquants. Elle est faite pour faire peur aux gens afin qu'ils n'y aillent pas. Vous voyez ? Comment abolir les prisons ? En ne mettant pas ceux qui n'ont rien à y faire. Les délits routiers n'ont rien à faire dans les prisons. La plupart des petites peines n'ont rien à faire dans les prisons. Vous pouvez les punir socialement. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer parce que cette nouvelle peine de contrainte pénale qui est en train d'exister, elle ne va pas remplacer les petites peines de prison. Elle va augmenter le parc carcéral en faisant de tout contrevenant à un délinquant qui sera soumis à un contrôle, avec un bracelet, qui sera sous main de justice, mais qui ne sera pas emprisonné, qui sera enfermé. Donc la prison n'est pas forcément nécessaire.
Joannet, éducateur magistrat, premier avocat à la Cour de cassation, conseiller justice de Matignon et à l'Élysée, en l'occurrence, s'est porté garant pour la conditionnelle de Philippe El Shenaoui.
C'est au cours de ma deuxième visite à Poissy avec Philippe. On a parlé de cette question et de mon expérience dans toutes ces prisons que j'ai visitées. Je crois qu'il y a deux questions de principe. C'est évidemment, le prisonnier a envie d'être libre. C'est la liberté. Mais peut-être paradoxalement plus important, c'est le respect de sa dignité. Parce que plus les gens sont condamnés à des peines de longue durée, moins leur dignité respectée. Parce qu'il y a la routine pénitentiaire, il y a les vexations, et puis on résiste à la vexation, donc il y a des survexations, et puis ça continue. Alors Philippe, on a souffert de ça, et parce qu'il résistait, il revendiquait qu'on respecte sa dignité. Et ça, c'est extrêmement important, parce que tant que l'homme résiste sur le plan de la dignité, il n'est pas libre, mais il est libre dans sa tête. Il y a un livre remarquable, je vous conseille, c'est Les lettres de prison de Rosa Luxembourg, où elle explique comment elle est restée libre dans sa tête en prison, elle a quand même fait 8 ans. Donc cette question du respect de la dignité, c'est tout un programme qui peut... C'est la formation des agents de la pénitentiaire, parce que ça passe par eux. Moi, dans toutes les prisons que j'ai visitées au monde, je consacrais un temps important aux surveillants pour voir quelles étaient les possibilités d'évolution. Parce que c'est quand même eux que les prisonniers scotinent tous les jours et que les prisonniers scotinent les prisonniers tous les jours. Donc le changement, il passe aussi par là. Mais sur la question de la dignité, dans les très longues durées, c'est pour moi quelque chose de capital. Et les pouvoirs des directeurs sont parfois excessifs, alors qu'ils ont une grosse responsabilité sur ce plan-là.
Pour introduire mon propos, on parle beaucoup de la prison et le débat sur l'abolition, je pense qu'il est nécessaire, surtout entre juristes, parce qu'on est beaucoup de juristes, je crois, dans la salle. Mais j'ai l'impression qu'on reste très en dehors de la prison, là, et de l'urgence de la situation de ce que, du coup, appelait la Réunion les QHS modernes, parce que, justement, on a du mal à sortir de l'isolement dans ces situations de longue peine. Donc on peut parler de l'abolition, mais je crois qu'il faut là qu'on parle sérieusement de comment est-ce qu'on sort de cet isolement, que ça soit surtout pour justement avoir peut-être un point d'accroche sur l'opinion publique ou sur le droit, après chacun aura sa stratégie. Mais voilà, j'introduis là-dessus parce que du coup, peut-être tu pourras lancer sur le bâtonnier parce qu'il y a eu une tribune. Et du coup, j'avance un peu sur ma question d'avance. C'est comment est-ce que la prochaine fois, parce que ça va péter si ça continue comme ça, comment est-ce qu'on est bien plus réactif et bien plus coordonné dans des réponses? Parce qu'il y a eu une tribune du coup à la réponse au bâtonnier par l'OIP et l'association Banque Publique, etc. Une tribune qui a mis un peu de temps à sortir, du coup c'est pas forcément un petit peu, du coup c'est pas, si mes souvenirs sont bons, ça devait peut-être passer dans un journal, c'est pas passé, bref, s'organiser pour que la réponse soit plus rapide, plus concrète avant de parler de la question de l'abolition de la prison, parce que l'urgence elle est large.
Delphine Boisel.
Oui, alors je peux expliquer ce qui s'est passé avec la maison centrale d'Alençon suite aux incidents qu'Olivier évoquait. Les avocats du barreau d'Alençon qui ont manifesté leur mécontentement et surtout ont indiqué qu'ils ne souhaitaient plus intervenir à la maison centrale d'Alençon compte tenu de la dangerosité des personnes qui s'y trouvaient, que les incidents parlaient finalement d'eux-mêmes et que au-delà d'une difficulté d'organisation du barreau pour assister aux commissions de discipline qui se tenaient tous les jours à l'époque à la maison centrale d'Alençon, eh bien les avocats réclamait de rencontrer les personnes détenues derrière des hygiophones, en fait, dans des parloirs vitrés. Alors en fait, cette position du bâtonnier, enfin du barreau d'Alençon, a fait suite déjà. On avait déjà eu une petite alerte, effectivement, au mois d'octobre. Il y avait eu un article dans un journal local d'un avocat qui évoquait cette possibilité de demander des parloirs sécurisés pour les avocats. Il y a eu donc cette manifestation du barreau d'Alençon. Je dis que la réponse n'a pas été si longue que cela parce qu'elle a mis une semaine à intervenir entre la diffusion cette tribune des avocats. On a été une quinzaine d'avocats, effectivement, sous l'égide de l'OIP et avec des gens, enfin, des avocats proches de Banque Publique, de l'Envolée, à réagir et à faire publier une tribune sur lemonde.fr. On a été repris également dans Ouest France pour justement contester en plus cette vision. Parce que si les avocats en plus se mettent à parler de dangerosité pour les personnes prisonnières, ça pose véritablement une difficulté, moi je trouve éthique, déontologique. On n'est pas là pour ça. Déjà que sur ce concept de dangerosité, on en a parlé tout à l'heure, je pense que même les psychiatres sont pas à même et nous encore moins, et qu'on n'est pas là pour ça. Donc voilà, on avait fait publier cette tribune. Bon, on s'est fait un peu renvoyer aussi dans nos 22 par le bâtonnier d'Alençon qui nous a dit que C'était pas notre prison entre guillemets, hein, que eux la connaissaient et que voilà, simplement nous étions un certain nombre d'avocats à intervenir puisqu'on a des clients à Alençon qu'on n'a jamais été confrontés. Enfin voilà. Et donc pour élargir sur le débat, c'est vrai que ça pose cette question de l'enfermement dans des quartiers d'isolement géants, hein, ou des QHS géants, des personnes qui sont condamnées à des très longues peines. Et de gestion finalement, hein, parce que le problème d'Alençon, le problème de Vendin-le-Veil qui va bientôt sortir des murs, je crois qu'il n'est pas encore, on est sur 2015, qui est un établissement totalement identique, il n'y a pas d'activité, où les personnes se croisent pas, ou se croisent vraiment en tout petit groupe, il n'y a pas d'échange, enfin voilà. C'est après le véritablement de ce qu'on met dans cette peine de prison qui est déjà totalement enfin voilà, on a des personnes qui se retrouvent, enfin on parlait de Christophe tout à l'heure, on est sur 2050, on en a plein d'autres avec des, enfin qui ont déjà fait 20 ans de détention, qui se retrouvent avec des fins de peine en 2030, 2040, et finalement on leur propose rien. Enfin voilà, on les a parqués dans un endroit. Si en plus les avocats se mettent à porter de tels jugements. Enfin voilà, nous, ça nous a vraiment alertés. Alors, ta question, c'était qu'est-ce qui se passe si ça se reproduit ?
Ouais, par exemple, est-ce que du coup, quelle est la situation aujourd'hui des avocats à Alençon ? Est-ce qu'il y en a quand même qui vont ou non ?
Alors, dans ces commissions disciplinaires ? Les avocats du barreau d'Alençon ont indiqué qu'ils y étaient retournés, qu'ils n'avaient pas eu gain de cause sur ce parloir vitré, mais qu'en fait, c'était pas vraiment une vraie demande de leur part, que c'était vraiment pour lancer le débat, être entendu par la presse, être entendu par l'administration pénitentiaire, qu'en fait, c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient. Ils y sont retournés en tous les cas. Moi, je vous dirais, j'y vais vendredi, donc je me renseignerai. Toujours est-il que les échos que j'en ai eus, c'est que ces avocats-là seraient très très mal accueillis par les personnes détenues la prochaine fois. Parce qu'effectivement, ils ont très mal vécu aussi, eux, à l'intérieur, d'être lâchés par ceux qui sont normalement là aussi pour porter leur voix. Si ça devait se reproduire, est-ce qu'on pourrait réagir plus vite ? Est-ce qu'on...
Une des alternatives, entre guillemets, pour les avocats qui seraient, par exemple, ici, ça serait d'aller intervenir là-bas. Alors certes, il n'y aurait plus d'aide juridictionnelle puisque ce n'est pas le bon barreau. Mais une intervention pour des commissions disciplinaires d'urgence, je parle, hein, c'est-à-dire quand il y a des mesures de mise en quartier d'isolement, etc., ça, c'est des choses qui sont envisageables pour, si vous voulez, dans un sens, couper l'herbe sous pied d'une dynamique de sur-isolement dans ces QHS. Ça, c'est un truc qui a été engagé avec quelques avocats un tout petit peu à Paris. Moi, je fais partie d'une caisse de réflexion sur les défenses collectives. Et ça a été un tout petit peu envisagé. On s'est dit que sur les commissions disciplinaires où il y avait un délai de 6 mois, là, valait mieux pas intervenir pour des questions de justice ou parce que potentiellement il y avait des vices de procédure ou de forme, bref. Mais que sur des questions d'urgence où il faut répondre dans les 3 jours pour des commissions disciplinaires, est-ce que ça c'est envisageable pour justement essayer de casser déjà l'isolement, pour montrer qu'il y a autre chose qu'une réponse de mise à l'écart dans ces QHS pour ces détenus?
Après, c'est tout à fait envisageable à partir du moment où on est prévenu suffisamment. Enfin, c'est toute la difficulté après d'organisation pour les avocats de pouvoir se déplacer. La difficulté, ça va être la désignation de l'avocat par la personne. Enfin, donc, ça va être compliqué à mettre en place par la suite. Je crois qu'on a créé avec l'Observatoire international des prisons un réseau d'avocats. On a réussi à fédérer un certain nombre d'avocats un peu partout en France. On est en lien qui nous permettent de réagir rapidement.
Il y a eu un truc comme ça qui a été fait dans le temps, le CTJ. Ça, c'était pendant la période QHS, donc comment on générait des mouvements dans les quartiers de sécurité pour contester. Il y a des jeunes avocats de la région parisienne et puis autres qui se sont proposés, qui se sont associés. Certains sont devenus célèbres entre-temps.
Oui, c'était un groupe clair avec plein d'autres avocats.
Ces jeunes avocats à l'époque, quand on était en grève de la faim, etc., eux nous suivaient. On partait, par exemple, nous faisait partir de Paris, on nous envoyait à... Le petit matin, comme ça, on baluchonnait, et on se retrouvait à Évreux, à Lisieux, etc. Et ce qui était important, c'est que les avocats arrivaient de suite. Ils étaient là, et donc il y avait un contrôle de l'administration pénitentiaire, on ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi.
Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire,
On peut pas, effectivement, on peut pas se dire c'était c'est une époque complètement révolue. Elle est pleurée après une époque en disant
ah oui, mais là, elle est en plein dedans.
C'est ça. Donc là à ce moment-là on était après 68. Aujourd'hui on est après 2013. Voilà, donc ce qu'il faut c'est parvenir maintenant, sinon ça ressemble à rien. Effectivement, parvenir maintenant, j'arrive pas à croire qu'il n'y en a pas là pour ce problème précis, à qu'il y ait des petits groupes d'avocats qui soient capables d'intervenir. Et il ne faut pas non plus se leurrer, il n'y en avait pas des centaines à l'époque. Hein, c'est comme il n'y avait pas des centaines de prisonniers qui se révoltaient à l'époque non plus. Il y a eu des mouvements de mutinerie. Bon, ça c'est des moments précis. Des groupes constitués de prisonniers. Sept, voilà. Et à sept, ils ont fait un barouf.
Préavis de grève de la faim.
Ils ont fait un barouf parce qu'il y a stratégie, il y a intelligence, il y a concertation, il y a un lien avec l'extérieur, etc. Donc c'est pas le nombre forcément qu'on attend. Parce que c'est une espèce de prise de position claire, nette. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, d'attendre qu'il y ait 50 avocats pour le faire. C'est sûr que si, là, dans la salle, il y a des petits avocats, c'est un problème net, précis. Il y a des gens là-bas qui font des petits mouvements individuels, ou des, enfin, gros, petits, ou on s'en fout, petits ou gros, individuels et collectifs, qui se retrouvent à passer d'abord par des prétoires et ensuite devant du pénal.
D'abord du tabassage.
Ouais, d'abord
du tabassage, et puis bon, après un peu plus tard.
Et bien comment effectivement.
Et après des peines qui s'ajoutent.
Comment on peut faire un groupe d'avocats pour court-circuiter les avocats tout désignés d'Alençon.
On a vu la réaction
du
bâtonnier.
Le projet qu'ils ont. Pas la première fois, et là ce sera pas la dernière. C'est complètement con de dire sensibilisation, c'est pas ça, d'essayer de faire évoluer les choses, de faire évoluer les mentalités, parce que ça reste, même quand on parle comme ça de la prison, de la justice, etc., on est dans une volonté de faire évoluer les mentalités. On peut pas parler de tout au même moment, enfin, sinon on dit à mon avis pas grand chose. De façon très très superficielle. Donc cette idée-là, elle est venue de mouvements précis qu'il y a eu à l'intérieur depuis cet été. On sait qu'il y a une demande, elle est petite, mais on sait qu'il y a une demande qui vient de l'intérieur. Parce que il y a une espèce de, pour un tas de personnes qui sont enfermées, d'impasse. Et ces personnes-là, elles ne vont pas attendre que le monde ait changé pour imaginer vivre. Elles seront mortes dans les prisons avant que la première des mentalités ait changé. Il faut bien réussir, nous, à porter, ou au moins à créer des caisses de résonance suffisantes, pour faire connaître et faire réfléchir à partir des problèmes qui sont posés, à savoir, on va le redire encore une fois, la longueur des peines, la politique de non-aménagement systématique des peines, la construction de ces forteresses qui vont avec la volonté d'enfermer pour de plus en plus de temps. Est-ce que nous, encore une fois, c'est une histoire, je ne sais pas, c'est une histoire d'engagement, de volonté, de prise de position de différentes personnes, de psychiatres, de professeurs, de chacun, là où il est, là où il se trouve, et en essayant de se mêler le plus possible.
C'est des prisonniers.
Et j'ai commencé par les prisonniers, d'arriver à porter ça. Et c'est ça le changement des mentalités, c'est d'arriver à le dire, alors que ça se dise avec du droit. Oui, là où ça peut, bien sûr, utilisons-le si c'est une arme possible. Mais on sait pragmatiquement aussi que c'est pas une arme suffisante. Qu'il faut d'autres choses, qu'il faut des mobilisations, qu'il faut que ça s'entende. Ce qui s'est passé dans les années 70, ça venait pas d'une autre planète. Quand un groupe d'intello a décidé de faire sortir la parole des prisons parce qu'elle sortait pas, et que ça a permis ensuite de générer un mouvement comme le CAP, qui a perduré, qui a été, c'est pas, encore une fois, ça concernait pas des milliers de prisonniers, ni des milliers d'intello à l'extérieur, ça concernait un petit groupe. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on s'en souvient encore, et y a des bagarres qui se sont faites autour de ça, des rapports de force qui se sont construits autour de ça. Si déjà, on arrive à l'extérieur à approcher cette force, cette conception de force-là,
eh ben on aura fait un pas pratiquement et dans l'évolution des mentalités. Parce que c'est ça qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Parce qu'effectivement, c'est vrai, cette dame a raison, on peut passer d'un sujet à un autre, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut bien, de temps en temps, s'arrêter à des sujets précis. C'est pour ça que là, nous, parce que ça fait des années, pour des raisons personnelles, collectives, etc., qu'on s'occupe et qu'on s'intéresse au problème de l'enfermement et du monde qui le génère. On sait très bien que c'est pas la prison, c'est pas quelque chose qui se reproduit tout seul. On sait très bien que ça vient d'un monde. On sait très bien que c'est un outil nécessaire au développement d'une société précise. Bien sûr qu'on le sait. Il y a des articles dans l'Envolée qui parlent de ça, en même temps que des lettres de prisonniers. Là, pour nous, l'urgence, elle est posée par des gens à l'intérieur qui disent qu'est-ce que la société elle est capable de faire ? Quel groupe d'avocats est capable de nous protéger si on prend des risques ? Quel groupe d'intello est capable de porter notre voix si on a des choses à dire ? Parce que nous, on reste confidentiel. Si on avait une tribune, si on avait une radio, si on avait même un journal comme Libération existait à l'époque, le problème ne se poserait pas de la même façon. Le problème, il est que c'est ça qu'il faut construire là maintenant. Je sais pas, c'est l'objet en tout cas de ce qu'on avance là, ce qu'on essaye de provoquer là, c'est ça. C'est pas autre chose que ça. Des réunions comme ça, il va y en avoir dans d'autres villes en France, là où il y a d'autres radios associatives ou qui ont des émissions qui ressemblent à celles de l'Envolée. Et puis, on reprovoquera avec d'autres, avec le plus grand nombre possible, hein, toujours un peu plus, c'est toujours mieux, des avancées en pensant que ces avancées-là, elles donneront aussi confiance à ceux qui vont aller au charbon à l'intérieur, parce qu'il y en a qui vont y aller. Prenez les journaux. La dernière page, c'est effectivement la lettre de Christophe Hider à Taubira, qui dit « Je ne ferai pas, voilà, j'ai fait 20 ans, au-delà de 20 ans, je ne ferai pas un jour de plus ». Alors, soit vous trouvez la solution pour me faire sortir, soit moi, je vais devenir ce que je n'ai jamais voulu être et ce que vous aurez fabriqué de moi. Voilà, c'est ça sa réponse. Lui et d'autres, hein, j'ai entendu dans un autre procès d'assises à Montauban, il y a très peu de temps, quelqu'un dire la même chose, dire « Je ne ferai pas la peine que vous venez de me donner. J'ai déjà fait 23 ans de prison, vous m'en remettez 20, je ne les ferai pas. » J'ai 50 ans aujourd'hui, je ne les ferai pas. Point final. Et c'est comment nous, on est capable de porter cette parole-là et pour qu'elle ait un effet, pour qu'elle commence à avoir un effet. C'est pas autrement qu'on change les mentalités, hein, pour moi.
Olivier, pour changer de mentalité, il faut aussi qu'on change de discours. C'est pas qu'on dise qu'on plaide pour lui, j'ai rien contre le mot plaider. C'est pour dire il a raison, on est d'accord avec lui.
Bah oui.
On est d'accord avec lui. C'est pas de dire soyez gentil avec lui. C'est de dire on est d'accord avec lui. Et ça, c'est un autre discours.
Ça s'appelle une prise de position. Il faut prendre position. Il y a un moment, il faut prendre position.
Voilà, c'était l'émission de l'Envolée du 23 janvier 2026. On vous a passé un espèce de melting pot de sons d'archives de diverses campagnes de lutte contre ce qui se passe en prison en 2008, 2009, 2013 et 2014. Voilà, tout ça pour faire écho aux mobilisations qui pourraient avoir lieu aujourd'hui en 2026. Je vais vous rappeler les contacts de l'Envolée pour nous écrire, pour discuter de tout ça, c'est important. Écrivez-nous par la poste l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Vous pouvez nous appeler ou nous laisser des messages écrits au 07 53 10 31 95, numéro qui marche aussi sur Signal. Vous pouvez nous écrire par mail à contact@l'envolée.net, l'envolée tout attaché sans accent avec deux E à la fin. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de l'envolée.net où vous retrouverez le podcast de cette émission et toutes les autres. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram éventuellement sur X et Facebook si vous êtes vraiment motivé. Voilà. Et ben on va clore cette émission. La semaine prochaine, le 30 janvier, vous retrouverez avec bonheur l'équipe en direct des studios de FPP. Et pour l'heure, moi, je vous laisse. J'adresse toutes mes pensées et toutes nos pensées à tous les prisonniers, prisonnières et à leurs proches, en particulier ceux et celles qui subissent les régimes d'isolement de plus en plus durs en ce moment. Force, courage et détermination. Et comme d'habitude, il n'y a pas d'arrangement. Salut!
Black Vita, and some of them say them a Black Star Bar, and some of them say them a Pepsi Basha. Fascist on the top, no bad no worry about that. Fascist on the top, we will fight them back. Fascist on the top, then we counter attack. Fascist on the top, then we drive them back. Smash their brains in. Fascists on the top, we will fight them back. Fascists on the top, we will counter attack. Fascists on the top, we will drive them back. Smash their brains in. Black Vita, and some of them say them a Black Star Bar, and some of them say them a Paki Basha. Fascists on the top, no bother worry about that. Fascists on the top, we will fight them back. Fascists on the top, then we will counter attack. Fascists on the top, then we drive them back. Gonna smash them.